Bonjour, bonjour, Yves au micro, pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne manquera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part à la fin du 19e siècle, et évidemment avec un épanouissement majeur au 20e siècle, et maintenant on revient à des petites images qui bougent sur les téléphones portables, les machins comme ça et tout, mais bon, sur un grand écran, c'est quand même encore mieux. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à un compositeur de musique de film américain qui s'appelle Randy Newman. Alors, j'espère qu'il y a autour du micro de 24 notes secondes des amateurs de musique de film. À cela, le nom de Newman ne sera pas inconnu, puisque le dit Randy Newman est né à Los Angeles, ce n'est pas un hasard, en 1943, dans une famille de compositeurs de musique de film. En effet, Randy Newman, pardonnez-moi, et a pour oncle Alfred Newman, qui a été notamment un des grands compositeurs américains des années 40-50, même si anecdotiquement, on retiendra plutôt qu'il a composé notamment le célèbre hymne de la 20th Century Fox, etc., etc. Il a aussi pour oncle Lionel Newman, autre compositeur bien connu, notamment lauréat de l'Oscar, excusez du peu, pour l'adaptation de la musique d'Hello Dolly en 1970. Et puis, il y a aussi dans sa famille Emil Newman, qui a écrit plus d'une centaine de musiques de films. Bref, Randy Newman est béni des dieux, d'autant plus que ses cousins, Thomas Newman, David Newman, seront eux aussi compositeurs de musique de films. Comme j'imagine l'être, le jeune garçon devait avoir l'esprit de contradiction, et bien c'est d'abord en tant qu'interprète de chansons et compositeur qu'il se fait connaître à partir des années 60, notamment avec un groupe nommé Harper's Bazaar, un jeu de mots qu'on ne peut pas très bien comprendre en français puisqu'il fait référence à un fameux magazine nommé le Harper's Bazaar, un groupe qui existera entre 1963 et 1970 et jusqu'au début des années 80, eh bien, avec des fortunes diverses, David Newman sortira un certain nombre d'albums, soit en solo, soit avec des groupes. Son plus grand succès restant un album intitulé Sail Away. Mais pour ne pas prendre trop de temps, à partir des années 80, il prendra un virage un peu radical, même s'il continuera à composer, enregistrer et même à jouer en public en tant qu'interprète et compositeur de chansons. À partir des années 80, donc, eh bien, il revendiquera et il assumera sa lourde hérédité, puisqu'il se tournera à son tour vers le cinéma et commencera à composer des musiques de films avec un succès toujours croissant. Et on va écouter un premier extrait d'une bande originale par lui signée, un film tourné en 1981, un film de Miloš Forman, un réalisateur venu des pays de l'Est et qui, comme beaucoup de réalisateurs, eh bien, connaîtra de gros succès aux États-Unis. Personne n'aura oublié Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson et surtout sans doute le Amadeus consacré à Mozart qui reste un chef-d'œuvre incontesté. Ragtime, quant à lui, est inspiré d'un roman de E.L. Doctorow. Ça se passe à New York au début du XXe siècle. C'est une sorte de saga d'une grande drôlerie. J'en ai déjà beaucoup dit. On va écouter un extrait de sa bande originale. Après, on reviendra sur le film. Ragtime, Miloš Forman, David Newman, ou plutôt Randy Newman, c'est mieux, dans 24 secondes. La nostalgique musique de Randy Newman pour le Ragtime de Milos Forman, tourné en 1981. Un film avec un générique qui voyait le retour à l'écran d'une légende d'Hollywood, mais vraiment une légende d'Hollywood, un acteur qui avait connu son heure de gloire dans les années 40 en jouant des rôles de gangsters, plus tous psychopathes les uns que les autres, et qui avait tourné son dernier film en 1961, soit 20 ans plus tôt. James Cagney, et oui, James Cagney qui fut vraiment un grand interprète de gangsters, entre autres, hein, il a tâté tous les genres, eh bien on le retrouvait en tête d'affiche du Ragtime de Milos Forman. Il interprétait le rôle du préfet de police de New York, un vrai personnage. Le roman d'ailleurs entremêlait des destins de personnages fictifs et des destins de vraies personnes, comme les Américains savent si bien le faire. Et aux côtés de James Cagney, eh bien il y avait à l'époque des jeunes qui en promettaient, qui n'ont pas toujours eu la carrière qu'ils méritaient, notamment Brad Dourif, qu'on reverra ensuite, lui aussi, exclusivement dans des rôles de tueur psychopathe, ce qui est quand même assez limité comme registre. Et puis la délicieuse Elizabeth McGovern, dont on se demande pourquoi elle n'a pas fait une plus brillante carrière alors que tout l'y prédisposait. Mais le monde du cinéma est bien impitoyable. Voilà, donc on va continuer en restant évidemment dans le monde du cinéma, mais aussi en faisant un petit détour par un autre monde, celui du sport, puisqu'on va écouter un extrait, pardonnez-moi, de la bande originale d'un film de Barry Levinson tourné en 1984. Alors en anglais ça s'appelait The Natural, en français ça s'appelait Le Meilleur, ne me demandez pas pourquoi, et c'était consacré à un sport dont je dois dire, mais je ne suis pas le seul, les Occidentaux autres qu'Américains ne comprennent rien, auxquels ils ne comprennent absolument rien. Le baseball, jamais bien compris quel était l'intérêt du baseball, ni même à quoi ça rimait exactement. Tous ces gens qui courent avec une batte ou une balle, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ai-je besoin de le dire, le baseball est un des sports nationaux des États-Unis et par conséquent, les films qui ont été consacrés à ce sport sont des plus nombreux. Le film de Barry Levinson est certainement un des plus connus. Il faut dire que la distribution est des plus prestigieuses puisque ce film qui raconte l'histoire d'un joueur de baseball, évidemment exceptionnel, qui aura fait je ne sais quoi dans une équipe new-yorkaise, eh bien, il a été interprété par rien moins que Robert Redford. Là encore, un grand monstre du cinéma américain des années 70-80. Et aux côtés de Robert Redford, il y avait Robert Duvall et un duo de charme, s'il en est, Glenn Close et Kim Basinger, qui étaient à leur pinacle dans ce début des années 80. Il y avait aussi Barbara Hershey, une brune qui, tout comme Elizabeth McGovern, citée tout à l'heure, eh bien, n'a pas connu la carrière qu'elle méritait. Barbara, on est avec toi. Pour illustrer eh bien, cette saga biographique, eh bien, Randy Newman, je vais y arriver quand même à dire le bon prénom, mais comme je l'ai cité au départ, entre Lionel, Alfred et les autres, on s'y perd un peu. Randy, excuse-moi. Donc Randy Newman avait composé une musique des plus tonitruantes. Je vous propose d'en écouter un extrait, The Natural, dans 24 notes secondes. Voilà, un mélange de mysticisme un peu et de côté roots country américaine, un extrait de la bande originale de Randy Newman pour Le Meilleur, un film de Barry Levinson dont j'ai oublié de vous indiquer qu'il était inspiré de l'auteur Bernard Malamud. Alors bon, le film connut un succès assez mitigé car Robert Redford, qui en était l'interprète mais aussi quelque part l'inspirateur, eh bien, avait choisi de mêler justement un côté mythique et un côté plus, je dirais, anecdotique sur la vie de Roy Hobbs, le joueur de baseball évoqué. Résultat qui ne convainquit pas forcément les publics, mais par contre le charisme de Robert Redford, ai-je besoin de le préciser, il était intact. Puisqu'on est dans le charisme, eh bien, on va y rester avec le film suivant, un film intitulé en anglais Awakenings, c'est-à-dire Éveil, et en français L'Éveil, ce qui n'était pas mal vu non plus. Un film réalisé par Penny Marshall en 1990 et qui s'inspire à la fois d'une histoire vraie et d'un roman, un roman écrit par Oliver Sacks, qui hélas décédé, mais qui reste un des spécialistes du cerveau, qui a écrit un certain nombre de livres. Il me semble qu'il y en avait un qui s'appelait L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, et qui est à la fois un praticien et puis aussi un passeur, un vulgarisateur qui savait rendre par le biais du livre et ensuite par le biais du cinéma, en l'espèce, eh bien, toutes les fascinations que le cerveau peut engendrer et toutes les bizarreries de comportement auxquelles il peut mener. C'était le cas dans ce film où on voyait un jeune médecin tout fringant, interprété par Robin Williams, le regretté Robin Williams, appliquer sur des patients dans un état vaguement catatonique un traitement révolutionnaire, alors qu'il faisait effet, c'est-à-dire que ces patients se réveillaient de leur état, d'où le titre du film Awakenings, mais hélas, pour y retomber au bout d'un certain temps. Et parmi les patients, eh bien, il y avait Robert De Niro lui-même, qui faisait du Robert De Niro à fond, c'est-à-dire, on peut bien imaginer que dans le côté, je dirais, catatonique, il était absolument extraordinaire. Évidemment, dans le côté « je suis éveillé », il l'était aussi, le pauvre, avant de replonger. Tout cela était quand même un brin mélodramatique, mais ça permettait à Randy Williams, je vais y arriver, Randy Newman, une très belle partition. On va écouter un extrait « Awakenings », Randy Newman, ça y est, dans 24 notes secondes. Un extrait bien rassurant, je trouve, de la bande originale de Awakenings, un film de Penny Marshall. Une musique de Randy Newman. Alors, j'ai oublié de le dire, mais à la limite, j'aurais pu ne pas le dire, mais je vais le dire quand même. A priori, L'Éveil était la première apparition cinématographique non créditée dans le rôle d'un infirmier, d'un gars qu'on a revu quand même pas mal après, qui s'appelle Vin Diesel. Vous savez, un gars un tout petit peu musclé. Et ben, c'était la première fois qu'il apparaissait au cinéma, dis donc, en 1990. Ça ne nous rajeunit pas, surtout lui. Voilà, on va continuer à évoquer la carrière de Randy Newman. Alors, ça va être un milestone, comme disent les Américains, puisque en 1995, Randy Newman sera associé à une aventure et vraiment un film radical, une nouveauté que personne n'avait jamais fait avant. Le premier film tourné uniquement en images de synthèse. Alors, c'était pas la première fois qu'on mettait des images de synthèse dans un film d'animation, mais c'était la première fois qu'un film d'animation était réalisé uniquement en images de synthèse. Et ce film, on le doit au studio Pixar. Je pense que vous avez déjà deviné le titre, puisque il rencontra un succès absolument colossal. Ça s'appelait Histoire de jouer en Québec, ça s'appelait Toy Story dans le reste du monde, un film sorti en 1995 et réalisé par John Lasseter, qu'on reverra ensuite, ou plutôt dont on entendra à nouveau parler dans les années qui suivirent, au fur et à mesure que les studios Pixar poursuivront leur ascension avant d'être rachetés par le méchant Disney, et que maintenant, bah évidemment, ils vont faire comme du méchant Disney, c'est-à-dire des trucs sans intérêt et passe-partout, mais en 1995, ce n'était pas le cas, et les aventures de Woody, le cow-boy, et de Buzz l'éclair, la figure d'astronaute qui voulait aller au-delà, et même encore vers l'infini et au-delà, voilà, c'est ça. Eh bien, les aventures de Woody et de Buzz l'éclair, des jouets délaissés par leur jeune maître, connaîtront un succès absolument colossal, alors des centaines de millions de dollars d'entrées en salle, et je ne vous parle pas, évidemment, des ventes de DVD, puisqu'à l'époque, en 1995, on vendait encore des DVD, et puis, évidemment, je ne vous parle pas des innombrables suites que connaîtra Toy Story, puisqu'on a eu le 2, le 3 et le 4, et qu'on a aussi des séries télévisées, enfin bref, ce que savent faire les Américains en termes d'exploitation merchandisée d'une bonne idée. Ma foi, il se trouve quand même que Toy Story était un très bon film, un beau film d'animation qui réussissait à utiliser les contraintes, mais aussi les avantages du tournage en images de synthèse. Alors après, on pourra regretter les belles gouaches de La Belle au bois dormant, mais ma foi, ce temps-là ne reviendra plus. Donc on peut aussi apprécier la vivacité, l'ironie, l'humour et la mélancolie aussi du film de John Lasseter. Et puis, on peut évidemment aussi apprécier la musique signée par Randy Newman, dont je vous propose maintenant un petit extrait d'un 24 notes secondes. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend. Friend in me, you got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through, 'cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend. Our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got
got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
You've got a friend in me, un extrait de la bande originale de Toy Story signé Randy Newman. Inutile d'indiquer, mais mieux en disant que Randy Newman sera au générique de Toy Story 2, 3, 4. Il sera aussi au générique d'un grand nombre d'autres films d'animation, Monstres et compagnie, Car 3, etc., etc. Mais on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale d'un film très joli, un peu méconnu, ça s'appelle Pleasantville. On y voit deux jeunes gens projetés dans un feuilleton en noir et blanc qu'ils regardent continuellement et qui viennent perturber de par leur regard moderne la vie, entre guillemets, de ce feuilleton. C'est très joli, les effets spéciaux sont très réussis. Il y a dans les rôles principaux Toby, Spider-Man, Maguire, Reese Witherspoon, Reese, on t'aime, et quelques autres. On en écoute un extrait, Randy Newman, Pleasantville, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.